Un quart de siècle après son accident mortel le 1er mai 1994, le mythe Ayrton Senna perdure. Secret, intense, parfois mystique, ce seigneur de la Formule 1 a autant marqué les esprits pour son talent surnaturel que par sa personnalité hors norme. Pendant près de 15 ans, le journaliste Pierre Van Vliet a couvert les exploits du pilote brésilien, mais il a également été le témoin de sa vie hors des circuits. Aujourd'hui, il retrace l'itinéraire du triple champion du monde dans une série de podcasts qui vous emmène de Sao Paulo à Imola en passant par Monaco et Suzuka. Dans les pas d'Ayrton Senna, un récit de Pierre Van Vliet et Andy David, voix off Marie Lizac, son Romain Rivreau. Épisode 5, Suzuka, le combat des géants.
En 1962, un néerlandais à la fine moustache, John Hugenholtz, se rendit au Japon. Il avait été désigné par Honda, propriétaire d'un terrain près de la petite ville de Suzuka, pour dessiner un circuit automobile. L'homme adapta le tracé au terrain, constellé de collines et hérissé de poteaux électriques. Ce faisant, il parvint à créer un ruban en forme de 8, sinueux et technique. Un quart de siècle plus tard, le Japon, en plein triomphe économique, accueillit le grand cirque de la Formule 1. Et c'est à Suzuka qu'un duel en trois actes se tint. Il opposait les deux géants de la discipline, Ayrton Senna et Alain Prost. Ce match fit des grands prix, un feuilleton télévisuel suivi dans le monde entier.
En 1988, Ron Dennis, le patron de McLaren, réunit Alain Prost et Ayrton Senna au sein de son équipe. À l'époque, Pierre Van Vliet, est-ce qu'on s'attend à un duel d'anthologie ?
Ben oui, parce que c'est quand même les deux meilleurs pilotes de leur de l'époque, sinon de leur génération, parce qu'Alain était quand même un petit peu de la génération précédente. Alain avait vécu chez McLaren d'ailleurs déjà la cohabitation avec Niki Lauda, hein, qui était sinon le professeur, l'ordinateur et la référence. Et la cohabitation s'était plutôt bien passée. Avec Lauda qui avait eu le dessus la première année, alors dans un contexte un peu particulier, parce que logiquement, Alain aurait dû être champion du monde parce qu'il était plus rapide que Lauda. Et que donc le mariage Prost-Senna, on inverse un peu les rôles, quoi. C'est Prost qui est le senior et Senna qui est le nouveau venu. Mais la voiture est tellement supérieure, comme on l'a dit dans l'épisode précédent, que voilà, il n'y a pas match. Il n'y a pas de concurrence, mais il n'y en a vraiment pas du tout. Donc c'est eux deux, point final. Et c'est première ligne à tous les Grands Prix quasiment, et c'est premier et deuxième à tous les Grands Prix quasiment. Même si à l'époque, la fiabilité des voitures n'est pas encore ce qu'elle est aujourd'hui. Mais voilà, et eux savaient que ça se passait entre eux deux. Et il y a ce qu'on a déjà évoqué aussi, le fait que, assez rapidement, Alain se rend compte qu'en vitesse pure, intrinsèquement sur un tour, Ayrton a cette obsession de la pole position, et Alain se dit... Je vais pas rentrer dans son jeu. Et en revanche, Alain, avec beaucoup de malice et d'ingéniosité, prépare son coup pour le dimanche. Et souvent, Alain, le dimanche, ben, il a une auto qui est mieux réglée, il a mieux compris les pneus, il a le rythme en course que Senna n'a pas toujours. Donc il gagne des courses à la régulière, fair and square, comme disent les Anglais, et Ayrton... a beau considérer que faire la pole, c'est quand même montrer que c'est lui le meilleur et point final, c'est le dimanche qu'on distribue les points.
Cette année-là, Suzuka est l'avant-dernière manche du championnat. Ayrton Senna est en pole position, puis cale au départ.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a peut-être la pression, l'intensité de l'enjeu, parce que son premier titre de champion du monde, quand même, il en rêve depuis longtemps, et il est, voilà, le titre est là, à portée de main, parce qu'il a l'avantage au championnat, parce qu'il y a un règlement un peu particulier sur la distribution des points, justement, hein, on ne retient que les 11 meilleurs résultats sur 16 Grands Prix, même si Prost a accumulé plus de points, mais en qualité de résultat, on va dire que c'est Ayrton qui a l'avantage. Donc, il lui suffit quelque part d'être devant Prost ou un peu de choses près pour être champion du monde à Suzuka. Mais bon, Suzuka, c'est un tracé un peu particulier parce que la ligne droite est en descente. Et donc, c'est très délicat au départ de doser l'embrayage, les freins. Attention de pas faire bouger l'auto avant l'extinction des feux parce qu'on peut être pénalisé, etc. Donc, voilà, je suppose qu'un peu la fébrilité, l'intensité. Bref, il cale au départ. Il cale et donc il le temps de remettre en route, parce qu'heureusement c'est en descente, et donc il parvient sur son élan à refaire partir le moteur. Ben, il est 14e au premier tour, quoi. Et là, il se lance dans un festival dont il a le secret. Bon, Suzuka, c'est un circuit forcément de pilotage. La voiture est tellement supérieure que voilà, il remonte assez facilement en deuxième place. Il revient sur élan, il commence à pleuvoir, quelques gouttes, mais bon, on reste en slick, mais c'est du gras mouillé, c'est vraiment là où bon ben Senna il est juste éblouissant, et même Alain se rend compte que voilà, je sais plus très bien mathématiquement comment ça se passait, mais en gros ça servait à rien de résister, quoi, et la victoire est d'autant plus belle que voilà, Ayrton revient, remonte, dépasse Prost et gagne et remporte ce premier titre, et dans le tour d'honneur voilà, il craque, il est en larmes, l'émotion est à son comble.
C'est ainsi qu'Ayrton Senna décroche son premier titre de champion du monde de Formule 1. L'année 1989 voit le retour des moteurs atmosphériques, Honda passant du V6 Turbo au V10 Atmo. La domination de McLaren se poursuit, mais c'est aussi à ce moment que les relations entre Alain Prost et Ayrton Senna se dégradent définitivement.
Oui, alors elle s'était déjà un peu dégradée quand même en 88, même si la cohabitation se passe plutôt pas mal, il y a du respect entre eux, il y a même une certaine complicité, et puis il y a un incident, c'est Estoril je crois, où voilà, Alain a préparé son coup pour la course, et Ayrton est en pôle, mais fin du premier tour, Alain il est dans la spie, et hop, il le double, il est un peu mieux, la voiture est un peu mieux réglée, meilleure vitesse de point, hein. Tour suivant, Senna à les boules, il veut repasser devant, il le vient à côté dans la ligne droite, il tasse Prost contre le mur des stands, et Alain se fait peur, parce qu'on est au-dessus de 300 à l'heure, et là, le mec il est fou, il est capable de tout, il est prêt à prendre tous les risques, ce qui est un peu vrai, et c'est là où voilà, il y a une forme d'incompréhension qui s'installe entre eux, et une mauvaise foi aussi, parce que Senna dit ben non, voilà, c'est la course, quoi, hein, c'est la bagarre, même pas peur, et Alain dit non, c'est autrement plus grave que tu ne le penses. Mais bon, la saison 88 se termine et Prost la joue relativement fair play. 89 commence. Et le match s'installe de nouveau. Alors la voiture est peut-être pas aussi supérieure, mais bon, les deux pilotes aussi, voilà, se transcendent et s'attirent l'équipe vers le haut et eux-mêmes atteignent des. C'est ça la beauté de cette époque, c'est que on a les deux meilleurs pilotes du monde dans la meilleure voiture, dans le meilleur team, réunis à armes égales. Donc c'est un duel comme on en a rarement eu en F1, vraiment très rarement. Et bon, 89 donc démarre plutôt bien, mais à Imola, voilà. Ils savent qu'ils ont la meilleure auto et que ça peut jouer au départ ou au freinage, le premier vrai freinage, c'est-à-dire à la Tosa, je crois. Et donc, ils passent un deal, quoi, un pacte de non-agression au premier freinage. Enfin, celui qui est en tête au départ, enfin, dans l'élan du départ, eh bien, l'autre ne l'attaque pas au freinage de la Tosa. Et après le premier tour, bon, là, la course se joue à la régulière. Bon, il se fait qu'au bout de 4 tours ou 5 tours, il y a l'accident de Gerhard Berger à Tamburello, déjà, et la course est arrêtée au drapeau rouge, donc on repart pour un deuxième départ, et là, Ayrton, Alain est en tête, puisqu'il était en tête sur les 4 premiers tours, et là, Ayrton oublie le pacte de non-agression, et dans le freinage, alors qu'Alain s'y attend vraiment pas, on voit qu'Alain ne cherche même pas à protéger la corde, et là, Ayrton passe, et voilà. Et Alain est fou de rage, et Alain se décompose, vraiment. Dans la course, il va faire des fautes comme il n'en fait jamais. Alain va faire un tête à queue, enfin, Prost en tête à queue, c'est impensable quasiment à l'époque. Et bon, Senna gagne et Alain fait la gueule vraiment sur le podium et dans le débriefing. Et puis ça se corse. Ils font des essais avant Monaco pour préparer Monaco, qui est le Grand Prix suivant. Ils font des essais à Pembrey, au Pays de Galles, sur un petit circuit minuscule. Et là, ils sont tout seuls. Ils sont juste McLaren et personne d'autre. Et bon, Ron a pris conscience que le torchon brûle entre les deux pilotes. Et donc, Ron lui-même fait le déplacement pour aller à Pembrey et pour parler avec eux. Et là, Alain exige des excuses de la part d'Ayrton, le fait qu'il a trahi l'accord conclu et que ça ne va pas, etc., etc. Qu'il faut réinstaurer une confiance, sinon ce ne sera pas bon pour l'équipe, patati patata. Donc Ron prend plus ou moins, fait cause pour Prost. Joe Ramirez est là aussi et il essaye de calmer Senna, mais Senna est contraint, vraiment, et forcé d'exprimer des excuses qu'il n'a absolument pas envie d'exprimer, et il le fait tellement en rage qu'il le fait en larmes, quoi. Mais bon, après, ils essayent d'arrondir les angles et ils repartent à Monaco. Le problème, c'est qu'en arrivant à Monaco, enfin, Ayrton vit à Monaco, donc moi je me souviens, c'est le papier de l'équipe du mardi ou du mercredi, et John et Reeve, dans l'équipe, racontent ce qui s'est passé à Pembrey dans les moindres détails. Or, il n'y avait pas de témoin. Donc le seul, forcément, qui a alimenté Johnny, ben, c'est Alain. Et ça, Senna le sait. Or, ça faisait partie aussi du deal à Pembrey, c'est bon. L'incident est clos, mais on n'en parle pas et on en reste là et on ne s'exprime pas là-dessus. Il ne s'est rien passé, Imola. Bon, pas de chance. Alain est un peu bavard avec Johnny et se confie et Johnny fait son boulot. Mais Senna l'apprend, il lit ça, il est furieux et à partir de ce moment-là, c'est la guerre. C'est la guerre froide, c'est silence radio entre eux, chacun pour soi, chacun dans son coin. Il y a des débriefings surréalistes parce qu'ils parlent aux ingénieurs, mais ils ne se parlent pas, ils ne se regardent pas. Et c'est les ingénieurs qui, après, doivent faire le lien.
Suzuka, c'est aussi le lieu où Honda effectue des dizaines de journées d'essais pour tester ses moteurs. Alain Prost déclare aux journalistes qu'il est désavantagé par la marque japonaise. Est-ce que c'est un reproche juste ?
Alors on est un peu aussi avec ce duel à couteau tiré tellement exacerbé, on est un peu dans la parano de part et d'autre. Hein. Alors la parano d'Alain, c'était Honda favorise Senna, la parano de Senna, c'était Balestre, la FISA, etc., le clan des Français. Alors dans les deux cas, c'est pas vrai. Mais dans les deux cas, il y a peut-être un tout petit peu de vrai quand même. Le côté presque involontaire. Alors, dans le chef de Honda, c'est vrai que voilà, Senna était un dieu. Et donc, pour les ingénieurs de Honda, pour les techniciens de Honda, c'est sûr que Senna, c'était leur favori. Hein, c'était un dieu, parce qu'il avait ce charisme et cette dimension de héros. Qui manquait peut-être un peu à Alain, et donc au Japon, Senna était déifié. De là à dire qu'Honda mettait des moteurs de côté, que certaines pièces étaient ce moteur-là, c'est vraiment Senna et c'est pas Prost. Alain prétend que ça s'est produit, et c'est possible que, notamment dans la deuxième partie de la saison 89, à partir du moment où Alain annonçait qu'il passait chez Ferrari, donc ça remonte au Grand Prix de France au mois de juillet. Il annonce qu'il part à l'ennemi. Bon, à ce moment-là, il n'est pas exclu effectivement qu'il y ait une forme de favoritisme de la part de Honda envers Ayrton Senna, et même chez McLaren en interne. On prend en fait et cause pour Ayrton et pas pour Alain. Alain part, Alain trahit la famille. Et c'est peut-être le plus beau titre de Prost 89, parce que c'est dans l'adversité. Il gagne le championnat contre sa propre équipe. C'est assez grandiose. Moi, j'aime beaucoup. J'étais très proche des deux pilotes parce que je les connaissais bien tous les deux avant qu'ils soient des stars de la F1. Donc, j'étais un de ceux qui pouvaient parler aux deux. Parce que la parano était telle qu'il y avait des clans et qu'on ne pouvait pas être pro Senna ou pro Prost. Enfin, il fallait être l'un ou l'autre. On ne pouvait pas avoir une position relativement neutre ou objective entre eux. Bon, moi, je parvenais à garder, en tout cas, un contact personnel avec chacun d'entre eux. Mais, je devais quand même... Alain m'en voulait quand j'écrivais ou que je disais quelque chose favorable à Senna. Un peu moins dans l'autre sens, parce qu'Ayrton ne lisait pas le français ou ne savait pas exactement ce que je disais à la télé. Mais je me souviens d'une interview de Senna qui n'avait pas donné d'interview, justement, après l'épisode Pembrey et tout l'été, et c'est à Spa, donc c'est au mois d'août, fin août, et là je parviens à arracher une interview à Senna. Au départ, on me dit non, c'est Agnès Carlier qui était l'attaché de presse. Mais non, c'est 3 minutes, hein, c'est pour parler de Rédillon le Rouge, hein, on est bien d'accord. Et puis finalement, Ayrton, je le connais bien, je le chope et je le travaille, je lui parle un peu portugais pour le mettre à l'aise, et je lui dis, mais est-ce qu'on peut une fois pour toutes avoir ton son de cloche, parce qu'on n'avait eu que la version d'Alain, en fait, sur l'événement Imola, Pembrey, etc. Et donc, avoir le son de cloche de Senna, c'était un scoop. J'étais très content de moi, j'avais fait la une d'Auto-Hebdo, etc. Et ça avait été repris par toutes les gazettes, et voilà. Ce qui n'avait pas plu à Alain, donc. Mais c'était le contexte de l'époque, voilà. C'était la guerre, et il fallait faire avec.
1989, une nouvelle fois, le... Tout se règle à Suzuka avec, au 47e tour, au triangle Casio, nom officiel de la chicane du circuit. Pierre Van Vliet, vous vous trouvez à quelques dizaines de mètres quand l'accrochage entre les deux hommes se produit.
C'est vrai que c'est assez cocasse. Alors moi, j'étais dans les stands pour TF1. On avait d'habitude un micro HF, on pouvait se balader. Il se fait qu'au Japon, c'était pas possible pour les utilisations de fréquences. Donc j'avais un micro, mais qui était avec un fil, qui était bloqué. Du côté du garage McLaren, parce que c'est là que ça se passait. Et puis quand j'ai vu l'incident à la chicane, on a quand même senti un petit peu venir. Moi, je savais très bien qu'Alain n'allait pas se laisser faire. L'enjeu était celui-là.
Pendant toute la course, les deux McLaren sont roue dans roue. Alain Prost est en tête. Ayrton Senna est juste derrière et tente, en fin de course, de doubler son adversaire.
Voilà, on est à 7-8 tours de la fin. Mais bon, Ayrton n'est pas vraiment plus vite. Et Alain sait très bien qu'on ne double pas à voiture égale s'il ne se loupe pas. Donc Alain ne fait pas de faute. Et, voilà. Et puis surtout, dans le briefing d'avant-course avec Ron Dennis et tout, Alain a bien dit... Attention, pas de manœuvre suicidaire, j'ouvrirai jamais la porte, quoi. Je suis là pour gagner. Bon, comme Alain part en tête et voilà, il fait le boulot, Senna, à un moment, il tente le coup, c'est-à-dire il oublie de freiner, quoi, à la chicane, il retarde le freinage, voilà, il perd le grip, il va s'appuyer contre Alain, hein. Mais Alain le voit avant, Alain anticipe la manœuvre, parce qu'il a l'œil dans le rétro, et donc Alain, dès qu'il voit qu'Ayrton tente le coup, peu importe, qu'Ayrton ne passe pas peut-être le virage, mais Alain ne prend pas le risque, il donne le coup de volant, il braque. Donc il anticipe son point de corde, hein, clairement. Hein. Il ne s'en cache pas d'ailleurs. C'est beaucoup plus visible des images d'hélico d'ailleurs. Mais bon, et là, la messe est dite. Parce que Prost est champion du monde. Une fois que les deux voitures sont sur le carreau, Prost est champion du monde. Il se fait qu'Ayrton, lui. Alain, évidemment, il fait tout pour qu'on en reste là et que, hein, et que c'est terminé, parce qu'il sait qu'il a gagné. Et il est quand même pas content que Senna ait tenté le diable. Et puis Senna, lui, il veut repartir, donc il convainc les commissaires de le pousser. Il repart en coupant la chicane, en profitant de la descente pour mettre le moteur en marche, etc. Il repart, et alors là, il conduit comme un... Voilà, il est en état second, et il conduit comme un dieu, quoi. Il remonte, je crois qu'il est à 30 secondes de Nannini, qui est en tête avec la Benetton, et en 4 tours, il est dans ses roues, enfin, un truc de dingue. Il reprend 5 secondes de tour, enfin, tellement il est remonté... Et finalement, il fait le même coup à Nannini, au même endroit, à la chicane. Et Sandro comprend que ça ne sert à rien de résister à la tornade. Et Senna passe le drapeau à Damier, il croit qu'il a gagné. Oui, sauf que, forcément, Alain a compris tout de suite ce qui se passe. Et il redescend le long du rail. Et je sais, moi je le vois...
Donc il est à pied.
À pied, bien sûr. Et je sais très bien que la première chose qu'il va faire, il ne va pas aller au garage McLaren, il va tout de suite, la tour de contrôle est à l'entrée des stands, il va tout de suite monter à la direction de course pour dire « Senna a coupé la chicane ». Enfin bref, il est reparti, il ne peut pas, il faut le disqualifier. Bon. Et comme je sais que ça va se passer comme ça, je pose mon micro par terre, puisque le fil est trop court, on m'empêche de remonter à la rencontre d'Alain. Et on avait des talkie-walkie pour... dialoguer entre nous, à TF1, pas sur l'antenne, mais pour parler entre nous. Et je préviens en cabine, je crois que c'est Christian Van Rijswijk qui était avec José Rosinski, je le préviens, écoute, je vais essayer de choper Alain, mais ce sera avec le Toki, donc sois attentif au Toki. Donc je remonte le long du rail, je tombe sur Alain, qui peut pas dire non, enfin qui peut pas ne pas me répondre. De toute façon, je lui dis, mais alors Alain, hein? Donc Alain explique, hein? ça va pas, donc... Hein? Et voilà, moi, je lui colle le toki sous le nez, et Christian, en cabine, a le réflexe de mettre le micro sur le toki. Donc, on a Prost en direct sur TF1, et il se fait que Prost ne va pas s'exprimer devant la presse par la suite, et même de toute la journée, enfin de tout le week-end, et même de la semaine qui suit, je crois. Et donc, on était les seuls à avoir eu le son de cloche d'Alain, même si c'était une réaction à chaud relativement attendue. Mais c'est la guerre, quoi. Et c'est la guerre, y compris... c'est là que la parano d'Ayrton par rapport à Balestre et par rapport à la FISA s'exprime. Ron Dennis en remet trois couches, parce que Ron Dennis est complètement partial envers Senna. Il a quand même un de ses pilotes qui est champion du monde, quoi. Et Prost a quand même joué un rôle non négligeable dans la montée en puissance de McLaren dans les années 80. Mais voilà, Alain a trahi, il part chez Ferrari, il a balancé son trophée à Monza là, au Tifosi, ce qui a rendu Ron Dennis hors de lui. Et donc Ron, il va plaider la cause de Senna en direction de course contre Prost. Et c'est encore vrai par la suite dans les appels contre appels qui suivent. Et donc Alain est vraiment champion du monde envers et contre tout.
Ayrton Senna, à ce moment-là, a une période de doute. Il vient de perdre le titre. Il est persuadé d'être, on va dire, dans le collimateur de la fédération, que tout le monde est contre lui. Il menace de quitter la F1. C'était sérieux ?
Ou alors il fait un peu la victime, c'est vrai. Hein, il surjoue un peu le rôle de victime. Mais il y a quand même un sentiment d'injustice. Hein, Ayrton est quelqu'un, c'est blanc-noir. Quoi. Et là, il se dit, il se sent persécuté. Et notamment, la coalition française, Balestre, Prost, ça le rend fou. Il se replie sous sa tente. Il retourne au Brésil. Et pendant 2 mois, on n'entend plus parler d'Ayrton. Enfin, je crois qu'il y a peut-être un appel encore à la FIA, mais je ne suis même pas sûr qu'il soit là. Enfin, c'est peut-être Ron qui y va, peu importe. Enfin, en tout cas, silence radio d'Ayrton. Et il semblerait que, effectivement, il envisage le fait de ne pas courir l'année suivante et qu'il a fallu toute la persuasion de Ron Dennis pour de longues conversations téléphoniques dans la maison d'Angra, là où Ayrton était reclus, pour finalement le convaincre de revenir et de se dire « Allez, on va lui montrer à ce Frenchman de quel bois on se chauffe, Ferrari, c'est l'ennemi, donc on a besoin de toi, viens. » Et finalement, il revient. Mais il aura d'autres périodes de doute par la suite, où il songe très sérieusement à ne pas courir en F1. C'est plutôt fin 92, je crois, quand il va essayer la Penske IndyCar, mais c'est une autre histoire.
Acte 3 en 1990, Alain Prost est parti chez Ferrari, les deux hommes se disputent une troisième fois le titre devant les 150 000 spectateurs japonais. À ce moment-là, si les deux hommes abandonnent, Ayrton Senna est champion du monde et l'affaire est vite réglée.
Oui, alors là, franchement, c'est pas le plus beau de son histoire, Ayrton. Il l'avait regretté tout de suite, hein. Il était honteux, mais en même temps, c'était plus fort que lui. Et de nouveau, la persécution, le sentiment d'être victime d'une coalition, s'était exprimé parce qu'aux essais, il fait la peau, Ayrton, et il peut pas choisir de quel côté de la piste il s'élance. Il sait très bien qu'à Suzuka, il faut partir à gauche et pas à droite. La direction de course, malgré le fait que Roland Brunsera lui dit « si, tu vas pouvoir hein. ». Finalement, alors soi-disant, c'est Balestre qui intervient. Et finalement, donc Ayrton part du côté sale de la piste à droite et Alain du côté gauche avec la Ferrari. Et au départ, arrive ce qui doit arriver. Alain a plus de grippe, il part en tête. Et ça, Ayrton ne le supporte pas. Et Ayrton a clairement dit, d'ailleurs, après ne pas avoir eu gain de cause sur la position sur la grille, a très bien dit « écoute, s'il est devant moi au départ, je lui rentre dedans et voilà, c'est réglé ». Et il le fait. Et il le fait. Et il ne freine pas, et il lui rentre dedans. Et ils sortent quand même, on est à 180-200, enfin bon. Bon, il y a un bac à sable, tout ce qu'on veut, mais bon, c'est quand même violent, quoi. Et c'est violent dans la détermination, dans l'espèce de, voilà, de tout ou rien. Enfin, Alain est choqué. Ayrton garde quand même son casque prudemment quand ils reviennent à pied jusqu'au stand. Et puis, une fois qu'il est dans la pit lane, Ayrton, il enlève son casque et je vois à sa tête qu'il est vraiment pas fier, quoi. Il est vraiment pas fier. Il mesure, il prend quand même la mesure de ce qu'il a fait. Et bon, il a un peu honte, mais un moment de honte est vite passé.